Max Doré, Maxime Doré, bienvenue dans la Terre. Et la Terre est plate. Mais on peut le dire LTEP, point d'interrogation. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut faire. On peut faire ça, on peut le dire comme ça. C'est ça qui est exceptionnel. Tu sais, tu parles d'un gars moderne. Tu sais, je mets les choses abréviées. Je fais l'abréviation, comme tout le monde en parle, tout le monde le tap. C'est même affaire, même combat, moi, puis tout le monde en parle. On est le 13 mars 2019. Il y a du monde pour qui 13, c'est encore une connotation négative. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça encore, pourquoi vous battez tripé là-dessus. Parce que dites-vous la chose suivante, il y a du monde qui dit que le 13 leur porte bonheur. Donc, tu sais, à partir du principe où il y a deux opposés qui s'affrontent, il y a un problème, là. S'il y a du monde qui dit que c'est malchanceux, d'autres disent que c'est une journée la plus chanceuse qu'ils vivent. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui est vrai? Dans le fond, vous allez dire, c'est vrai pour moi. C'est vrai pour moi. C'est vrai qu'on est dans une période où c'est très important ce qui arrive à nous. Personnellement, on est dans une période très égocentrique de l'histoire de l'humanité. On est tous égocentriques. On peut chialer contre l'égocentrisme. On est tous là-dedans. Je pense qu'on est dans des degrés différents d'égocentrisme. On peut plus dire ça comme ça. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui peut dire, non, moi, je suis complètement altruiste. On est dans une période dans laquelle on est centré sur nous-mêmes. Et je pense que la game se joue plus sur la quantité de centrage sur nous-mêmes qu'on est. Je pense que c'est plus là qu'elle joue la game que je le suis ou je le suis pas. Hein? On est pas mal tout de même. Il commence à faire beau, par contre. Il commence à faire soleil dehors. Il y a Pauline la Boomer, qui, elle, va aller vivre aux Îles-de-la-Madeleine ou en Gaspésie. Parce qu'elle dit qu'elle aime ça le froid et qu'elle aime ça quand il vente. Il y a quelque chose de bizarre avec Pauline la Boomer. J'essaie de parler avec elle. Hier, on a fait une heure de route ensemble. On allait à Montmagny, puis... J'essaie d'y expliquer, là. Je comprends pas où c'est qu'elle veut s'en aller avec ça, avec ses îles de la Madeleine ou sa Gaspésie. Elle veut qu'ils vendent, Pauline la Boomer. Il y a quelque chose de venteux, de froid. Elle a besoin de ça. Elle aime pas ça, le chaud. Fini le temps qu'elle aimait le chaud, mais elle le dit. Elle dit que le chaud, c'est plus pour elle. Donc, Pauline la Boomer a atteint son quota de chaleur. Donc, ça peut être noté dans les annales de la vie. Pauline la Boomer veut vivre quelque part où c'est qu'il fait frais. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai de la difficulté à comprendre où c'est qu'elle s'en va avec ça. Mais, tu sais, elle le vit profondément. C'est pas la première fois que Pauline la Boomer dit ça, là. Qu'elle veut s'en aller quelque part où il fait froid, qu'elle aime pas nécessairement l'été. Elle trouve ça chaud, elle trouve ça embarrassant. Elle aime pas l'hiver. Elle aime l'automne. Elle aime l'hiver particulièrement. Moi, je trouve ça bizarre, OK? Je dis pas... Mais attendez un peu. Quelque part, je la rejoins un peu. Moi, faire un voyage... Tu sais, comme là, de ces temps-ci, tout le monde part dans le sud. Pour moi, ce genre de voyage-là dans le sud, c'est non. J'aime pas ça. Je dis pas que c'est désagréable. Si tu m'envoies là, tu me le donnes, je vais y aller puis je vais trouver des choses à faire. Mais faire de la plage à longueur de journée, me lever aux heures, me remettre de la crème, prendre une pina colada, il y en a pour qui je viens de décrire le rêve. Ben du monde, ben des Québécois vont dire, mon Dieu, that's it, c'est ça que je veux faire right now. Non, pas dans mon cas. Là. Je veux dire, oui, je vais y aller une heure. À la plage, d'habitude, quand je vais dans le sud, je suis allé à plusieurs reprises pour différentes raisons. Puis quand j'y vais, je vais le faire, ça. T'sais, je vais y aller à la plage. Peut-être une heure par jour, dans le top. Dans le top, une heure par jour. Là. Pour moi, c'est long. Je calcule quasiment le temps. T'sais, je suis couché là, puis je pense, puis je suis là, oh, OK. Je relaxe pas là, en étant couché sur une plage, en attendant que le soleil me brûle. Premièrement, je brûle comme le maudit. J'aurais espéré être irlandais, mais comme je l'ai dit dans les autres émissions, j'ai eu mon putain de test de Ancestry DNA, puis je suis français à 100%. Je n'ai pas d'Irlandais, je n'ai pas d'Écossais. Ça me choque, j'aurais voulu être viking quelque part ou de quoi de même. Là. Ça me fait chier d'être 100% français. Mais anyway, donc, j'ai des taches de rousseur, je suis roux. J'en ai plus aujourd'hui, ça a comme parti. Les couches de peau se sont succédées, puis j'ai plus de taches de rousseur. Mais j'en avais à l'origine. J'avais beaucoup de taches de rousseur. J'ai les cheveux qui tirent vers le roux. Fait que tu sais, un roux aux taches de rousseur, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça au soleil, ça ne fesse pas dans le dash. Tu sais, ça n'a pas un petit tan de luxe, OK? Donc, moi, si je vais au soleil, c'est tout le temps consciencieux à se dire, faut pas que j'oublie que je suis ici, faut pas que je m'endorme, faut pas... Non. Puis la crème que je mets pour bronzer est dégueulasse. Même pas moi, c'est plus une crème pour pas crever. Là. C'est comme une pâte. C'est plus une pâte. Dans mon cas, c'est plus une pâte. Genre de pâte blanche. Très épaisse pour pas... Bon. Fait que donc, c'est pas plaisant à la base. J'ai pas cette capacité-là de bronzer. Puis en plus, je trouve ça long. Je trouve pas ça agréable, là. J'ai pas de plaisir. Je vous le dis, j'en ai pas. Par contre, après ça, si je peux me lever, aller me promener, voir le village. Souvent, j'aime ça voir la façon dont les gens vivent dans différents endroits sur Terre. J'aime ça aller mêler à la population, jaser avec eux autres, regarder leur daily life. Un peu un anthropologue. Je pense que j'aurais été heureux de faire de l'anthropologie. Genre de patente que tu fais pas une scène à part que tu travailles pour une université qui a de l'argent à perdre. Là. Mais, tu sais, j'aurais pu être anthropologue, me promener dans les peuples puis les étudier. J'aime bien ça. J'aime bien voir comment le monde vit, comment ils pensent, discuter avec eux, qu'ils m'apprennent leur façon de penser, leur façon de vivre. Ça m'intéresse. J'ai plus de fun, dans le fond, à faire ça dans le sud. Donc, tu es au Mexique, d'aller dans la petite ville autour, le petit village. Je dis village, il y a des très grosses villes au Mexique. Ceux qui pensent encore que le Mexique, c'est du monde couché sur le bord d'un mur avec un chapeau. Tu sais, vers Mexico City, ça fesse dans le dash. Un des hommes les plus riches au monde vient du Mexique en passant. Je parle pas de Pablo Escobar ou de Le Chapeau, El Chapeau. El Chapeau, comme dit Pauline, la boomer. Je parle de comment il s'appelle? C'est juste ça me fait. Je sais pas, j'ai Fox dans la tête. Vivente Fox, c'est l'ancien président. Comment il s'appelle l'homme le plus riche, là? Mexique, ça va revenir tantôt, de toute façon. Je trouve ça triste de perdre des affaires, même. Donc, c'est une place assez riche. Mais il y a des villages, puis j'aime ça. J'aime ça aller dans des villages comme ça. J'aime ça me promener là-dedans, puis... je trouve ça le fun. Je sais pas. Il y a de quoi de différent. Il y a de quoi apprendre de leur culture. Je dis de leur culture. Tu sais, tu vas m'envoyer en Ukraine, c'est la même affaire. Tu m'enverras en Russie, c'est la même chose. En Chine, au Japon. J'aime voir la culture du monde plus que en profiter pour moi-même puis me coucher sur la plage ou juste relaxer. Tu sais, je le ferais très bien ici, ça. Je peux me coucher sur le divan, écouter CNN. Moi, ça me relaxe. OK? C'est pour moi, c'est suffisant pour relaxer. J'ai pas besoin, là, de bon. Donc là, c'est la grosse patente, le monde s'en dans le sud, mais Pauline la boomer, elle, non. Elle veut aller dans la place où il fait fret. C'est comme ça. Faut pas essayer d'analyser ça. Faut pas rentrer trop profond dans la patente avec Pauline la boomer. C'est comme ça qu'elle vit, c'est comme ça qu'elle sent. Il faut, mesdames, messieurs, respecter ça. Là, je ah oui. Ferris Bueller Days Off. Ow, ow. Tout le monde a le goût de faire le. Daddy, daddy, daddy. Ow, ow. Vas-y, fais-le. Fais-le, là. Il va le faire bientôt, là. C'est ça que je veux, moi. Oh, oh, oh. Daddy, daddy. Ow, ow. Ferris Bueller Days Off. Le gars qui veut pas aller à l'école la journée. C'est genre de classique de mes années à moi, là. Des années 80. Ferris Bueller Days Off, c'est un big shot. Le lien est simple, il y a un énorme drame au State. C'en est un, puis le but, c'est un peu mon éditorial, c'est la chose principale dont je veux parler. C'est un drame, parce qu'on dirait que c'est un drame parce que les Américains l'ont eu en pleine face. Mais ce que je veux dire de ça, c'est que c'en est un, puis c'en est pas un en même temps. Je trouve ça un peu hypocrite de leur part de penser que ça puisse être autrement. Donc je m'explique. Il y a eu hier un énorme scandale de corruption dans les universités américaines qui a éclaté, puis ça a attisé le public de par le fait que ce soit des vedettes d'Hollywood. Donc, il y a des vedettes de série B, oui et non, parce que il y a deux femmes de second ordre. Non, il y a deux comédiennes, puis il y en a plusieurs de prix dans le scandale en question, mais vu que c'est des gens connus, on parle de eux. Donc, deux femmes, une qui faisait du Desperate Housewives, qui était dans la série, l'autre était dans All in the Family, ou tu sais, la fatante avec les jumelles Osmond. Là. Anyway, fait que deux comédiennes, c'est pas Angelina Jolie ni Sandra Bullock, mais deux comédiennes connues. Par contre, il y en a une des deux que son mari, c'est William H. Macy, très connu, un acteur qui fait beaucoup de patentes. Beaucoup de films, fait Fargo, fait des grosses choses. Je pense qu'elle a été nominée, mais elle a peut-être gagné un Oscar. Le drame est le suivant. Ces gens-là ont payé pour que leurs enfants rentrent dans des collèges américains prestigieux. Vous allez me dire, bon. Puis juste en disant la nouvelle, je suis pas mal certain que la majorité des gens vont dire, ben oui, mais c'est je pense, mais je savais même pas que c'était illégal. Il faut payer pour rentrer dans les collèges américains. C'est pas la question. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé par un service. Ça s'appelait de qui? Très original. Je trouve ça. Tu sais, j'ai la misère à pas en vouloir, mais tu sais, la personne en question était particulièrement performant. L'homme s'appelle William Rick Singer. Lui, ce qu'il a fait, notre ami William Rick Singer, c'est qu'il a dit, écoutez, c'est pas compliqué, je vais faire un service duquel je vais vous donner une backdoor entry. Je vais donner une entrée par en arrière dans les collèges américains en créant des liens avec les personnes clés. Pour pouvoir les soudoyer, pour pouvoir payer pour que vos enfants rentrent. Donc, lui, il a créé des liens. Mais là, on parle pas de l'UQAM ou l'Université du Québec à Valleyfield. On parle de Stanford, on parle de Yale, on parle de UCLA, on parle de USC, University of South Carolina. C'est des grosses universités, là. De grandes universités américaines. Donc, ce qu'il faisait, et on parle de gros montants, j'ai été surpris, là. Au total, lui, il aurait reçu dans les 10 dernières années 25 millions de dollars pour faire rentrer les jeunes riches, les jeunes de gens célèbres, là. Donc, il y a plusieurs choses dans ce dossier-là. Avant de rentrer dans ce que j'en pense, puis la raison pour laquelle il y a un peu d'hypocrisie aux États-Unis, il faut voir un peu le ridicule, le malaisant de la chose. Parce que tu vois les actrices, une des deux actrices, celle qui jouait dans All in the Family, je ne sais pas comment ça s'appelait, j'ai la difficulté avec ça. Elle s'appelle Felicity Huffman, elle jouait dans Kids in the Family, je ne me rappelle plus du nom, là, mais il y a les petites jumelles Huffman, puis ils ont fait une nouvelle série de ça récemment. Anyway, elle est mariée avec un designer connu, en parenthèse, un designer espagnol qui est quand même relativement connu. Mais là, il n'est pas l'important, c'est de voir ses deux filles. Donc, ces deux filles sont deux American, All-American Girls, tu vois. Ils font des espèces de petites patentes YouTube où elles parlent d'elles-mêmes. Très jolies, deux petites filles. Aujourd'hui, elles sont dans la vingtaine, mais dans le temps, ils ont commencé, ça fait un bout de temps. Ils faisaient des vidéos YouTube sur leur petite vie poche, leur petite vie pas poche dans le sens plate, P-O-S-H, leur vie de luxe. Très égocentrique, des petites filles de gars de gens riches, là, mais qui n'ont pas appris grand-chose de la vie. En plus, n'ont pas les capacités de rentrer dans des collèges américains majeurs. Donc, les parents passent par le service de qui? Ont donné dans ce cas-ci, je ne sais plus combien, là, c'était des gros montants. Là, c'est une chose. Après ça, on commence un peu dans le louche, dans la manigance. C'est là où ça fait mal. Ils font des photos, photoshopées, parce que souvent, la façon d'entrer dans des collèges comme ça, c'est par les sports. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais c'est de cette façon-là que c'est plus facile d'entrer. Donc, on leur donne des scholarships, ou du moins, on justifie l'entrée dans le collège par rapport à une discipline athlétique. Ça a été des disciplines par rapport. Je pense que ces filles-là, c'était genre l'aviron, ou des affaires qu'ils n'ont jamais fait de leur vie, mais en plus, pour augmenter le quétaine de la chose, faisaient des Photoshop d'elles en aviron, des patentes de même, pour qu'éventuellement, s'il y a des questions qui soient posées, ou postées sur Facebook, ou envoyées, ou du moins construire un genre de curriculum vitae de l'athlète, si quelqu'un vient vérifier, dit « Regardez, il a déjà fait de l'aviron, il y a une photo en aviron. » En plus, là où c'est vraiment la cerise sur le Sunday, une des deux filles en question de l'actrice s'en va devant faire une espèce de Facebook Live. Mais avant ça, donc avant que tout ça se sache, parce que depuis, on n'entend parler personne, tout le monde doit se cacher. Elle dit « Moi, oui, je vais au collège, mais je ne vais pas vraiment au collège pour apprendre. » Elle dit « Mon but à moi, c'est vraiment de faire le party et de rencontrer du monde. » Je vous le jure. C'est exactement à la seconde, à la virgule près son statement. Elle va, pas là pour vraiment étudier. Là. Je veux faire du monde, faire des parties. Ses parents ont payé, sont mis au bat pour qu'elle rentre là parce qu'elle est trop imbécile pour réussir à rentrer par elle-même, l'actrice en question. Elle s'appelle Olivia Jade, la petite fille. C'est la fille de Laurie Lynn. Écrivez Olivia Jade Statement, c'est malaisant. Malaisant. OK? C'est vraiment une petite conne. Il n'y a pas d'autre mot. Tu es une petite conne. Donc là, tout ça arrive et ça éclate. Donc, c'est par hasard. L'agent du FBI dit, c'est pas ce qu'on faisait comme enquête. On n'était pas là-dessus pantoute. On faisait une autre enquête, puis on a entendu parler de ça à travers les branches. On est parti. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Moi-même, plusieurs, on dit, c'est-tu illégal? C'est privé, ces collèges-là, non. Oui, c'est illégal. C'est-à-dire que tu ne peux pas frauder ta candidature pour rentrer quelque part. Tu ne peux pas frauder une institution. Donc, eux ont fraudé l'institution parce que l'institution en tant que telle n'était pas au courant jusqu'au sommet, là. C'est des gens à l'interne. Oui, il y a des gens à l'interne qui sont accusés aussi. Donc, le responsable de la mission de Yale, l'exemple, le responsable sportif de l'aviron de Yale, tous ces gens-là ont reçu des centaines de milliers de dollars pour faker l'admission. Il y avait des gens d'inclus. Mais à la base, tu as fraudé Yale. C'est Yale que tu as fraudé parce que l'institution, tu étais dans une conspiracy pour frauder Yale. Donc, c'est là où est le crime. Parce que Yale va porter plainte en disant non, voyons, non, ils nous ont fraudé. Il y a plein de gens à l'interne, oui, mais il y a des gens aussi qui ont payé à l'externe pour que ça se fasse. Et donc, il va y avoir des accusations pour avoir fraudé de grandes universités américaines pour réussir à rentrer dans les universités. L'homme en principal qui a reçu 25 millions étant le cœur de la patente avec son service de qui pour rentrer. Mais là, ça va. Et j'ai entendu dire, et je suis d'accord, on parle de pointe de l'iceberg, ça va commencer à péter de partout, ça. Et là vient mon commentaire total là-dessus. Je trouve ça un peu Oui, là, ça éclate, puis on voit des. C'est un peu des parvenus, des artistes qui sortent de nowhere, qui payent. Mais si vous regardez à travers les âges, dans les 100 dernières années, ça a toujours, toujours, toujours été comme ça aux États-Unis d'Amérique. Je veux dire, les familles qui allaient à Harvard, même dire que chaque rejeton était digne de Harvard à chaque fois que de génération en génération, le petit dernier était médecin ou la petite dernière était ci. Vous voulez me dire que ça se. Voyons donc. Il y a toujours eu un jeu d'influence majeur dans les universités de luxe américaines avec les familles qui ont du cash. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été comme ça depuis que le temps est temps. Puis je parle des États-Unis d'Amérique. C'est peut-être même pas honnête de ma part. C'est comme ça, j'imagine, dans toutes les universités de la Terre depuis que. Dans le temps de Socrate, d'avoir de l'influence pour rentrer dans les études de Socrate, ou dans les études d'Homère, je ne sais pas, ben Homère, c'est un Odyssée. Donc, je ne sais pas, je sais pas si ça a toujours été comme ça. L'être humain est fait comme ça. Lorsqu'il devient puissant, lorsqu'il est plus riche, quand l'argent domine, donc c'est la richesse, lorsqu'il est riche, va influencer pour que ce qu'il est autour de lui soit tout l'idéal ou le maximum pour les siens. Je ne dis pas que c'est nécessairement une bonne chose, mais ça, c'est un autre débat, c'est un débat de morale. Mais d'être étonné que ce service-là de qui, c'est sûr que c'est très Hollywood, c'est très, tu sais, bam, ils vont sûrement faire un film de série B là-dessus. Mais tu sais, je veux dire, ça fait, c'est parce qu'on voit des noms, on voit William H. Macy, on voit des jeunes filles ingrates qui, en plus d'entrer, envoient chier. Tu sais, ça donne, ça frustre le commun des mortels, ça nous frustre toutes, là. C'est nous qui n'avons pas les moyens de faire ça. Puis là où vraiment il y a un point majeur qui est marqué, puis où ça donne, ça enrage le monde, lorsque le procureur en question qui porte les accusations dit, il y a des jeunes qui ont tout fait dans leur vie, qui ont travaillé pendant, je sais pas, 15 ans des études, 12 ans, 12 ans au primaire, secondaire, et qui ont été refusés et qui seraient entrés. Ça va pas être de ces jeunes riches-là qui sont entrés par la porte d'en arrière. Oui, ça, effectivement, là, ça fait. C'est vrai. C'est vrai que tu parles de 12 ans de vie de quelqu'un que son rêve était d'entrer à Yale, le fait de la bonne façon, score au SAT, donc ce sont les tests d'entrée, et tu passes pas, et tu aurais techniquement passé légalement s'il n'y a pas eu deux, trois fraudes dans la patente, c'est dégueulasse. Ça change la vie de quelqu'un qui a travaillé fort. Juste une anecdote. C'est tellement malaisant. T'imagines des petits jeunes riches un peu stupides. Il y en a un, ses parents ont payé un bol pour faire les SAT. Quelqu'un qui était un génie. Donc, il y a eu 35 sur 36 pour lui en son nom. Donc, ils ont fraudé en disant que c'était lui qui était là au test. Lui, ils en ont fait faire un chez lui. Écoutez bien ça. Ils ont fait faire un test chez lui, au petit gars, pour pas qu'il sache qu'il rentrait par la porte d'en arrière. Donc, ils lui ont fait croire qu'il faisait un SAT chez lui. Ils ont eu 12. What a loser. Quel malaise. Quel. Oh my God, hein? Est-ce que c'est. Puis en même temps, nous qui vivons la vie réelle, pensez-vous que c'est un service à rendre à ce jeune con-là de faire ça, de le faire vivre illusoirement comme ça dans un monde de performance jusqu'à temps qu'il pogne un mur, puis qu'il devienne comme le fils du pont qui assassine du monde qui font. Qui assassinent du monde, qui font de la lutte, t'sais. Retour vers le futur. Hey, il y a une grosse news, là. Il y a de quoi d'assez pété. Tu sais, quand tu dis non, c'est une grosse news. On ne peut pas dire autre chose qu'une grosse news. Les scientifiques, donc, il y a des scientifiques qui ont réussi à revirer le temps. Ils ont réussi vraiment à retourner dans le temps. C'est quelque chose, là. T'sais, non, mais tu sais, bon, c'est minime. Vous allez voir, pas dans l'exemple, mais quand on explique la chose, c'est pas une grosse patente, mais c'est une grosse patente en même temps, là. C'est hot. Donc, c'est des scientifiques qui ont. Vous allez voir, c'est assez technique, là. Okay? C'est pas. Je vais essayer de le vulgariser, pas parce que moi j'ai compris pour que vous ne compreniez pas. Moi-même, je me le suis vulgarisé pour le comprendre. Parce qu'au niveau où ils le sont, au niveau auquel ils le font présentement, c'est assez pété. Là. C'est assez élevé comme patente. Là. C'est pas. On peut pas. Bon. Mais on peut le faire. Ils nous l'ont rendu. Ils l'ont rendu assez simple. Ils l'ont rendu assez simple, la patente. Donc, c'est au niveau des atomes. C'est tout petit, tout petit, tout petit, là. Donc, ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont créé un programme, ils ont créé un univers dans lequel ils pouvaient agir, interagir. Et la façon qu'on nous le décrit à nous, l'imbécile de service, nous autres, je m'inclus là-dedans, C'est comme si vous jouiez au billard, dans le fond. Les atomes étant les boules de billard. Donc, ils sont dans le domaine du quantum, de la mécanique quantique. C'est de la mécanique quantique, c'est l'avenir, la mécanique quantique. Je ne peux même pas vous l'expliquer. Je vous répète le mot mécanique quantique, mais je sais que c'est tout petit. C'est une mécanique d'atomes, c'est une mécanique vraiment minuscule. Mais encore là, il y a énormément de possibilités sur la mécanique quantique. Je vais relire là-dessus pour pouvoir en parler de meilleure façon, mais pour l'instant, sachons juste que c'est au niveau de la mécanique quantique. Donc, il nous l'explique de la façon suivante. C'est comme si vous jouiez au billard, donc, et que vous tapez vous faites votre entrée, votre service, pas un service, quand c'est le billard, quand tu frappes le premier, dans le fond, là, tu frappes, les boules partent partout sur la table. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est faire l'inverse par la suite. C'est de faire un rewind. Les boules se sont replacées à la bonne place. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. Ce qui est pété. Parce que vous allez dire, oui, mais ça se fait. Je veux dire, c'est pas, on rewind un peu. Non, ils l'ont fait physiquement. Là. Donc, ça a été fait. Il n'y a pas de vidéo prise. C'est pas ça, là. C'est pas un ordinateur qui est revenu en arrière. C'est physiquement. Les atomes, physiquement, ils les ont fait éclater. Ils ont fait partir dans tous les sens. Et avec leur technique, le programme, peu importe ce qu'ils ont, avec la mécanique quantique, avec le développement qu'ils ont réussi à faire, ils ont ramené, sont venus exactement comme ils étaient. Donc, ils sont revenus dans le temps. Ils sont revenus dans le temps. C'est comme si vous jouiez au billard, puis avec cette mécanique-là, les boules revenaient toutes placées exactement avant que vous frappiez. C'est le même moment avant que vous créiez le chaos. Ils ont réussi à faire ça. C'est pété, là. Ils disent donc que ça va s'améliorer. Là, avec plus la quantité est grande d'objets inclus, plus ça diminue les chances qu'ils ont eues de le ramener. Donc, s'il y en avait 4, 5, 10 atomes, plus il y en avait, plus c'était difficile pour eux de recréer, de ramener ça à ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi, c'est des technicalités de leur patente. Mais eux, ce qu'ils disent de toute façon, ce qu'ils en disent puis ce qu'ils veulent expliquer, c'est que ça va s'améliorer en plus. Ils sont au début de ça. C'est la première fois qu'ils réussissent à revenir comme ça en arrière. Selon eux, viennent de briser une des lois de la physique, effectivement. La loi de la physique étant que ce qui part s'en va techniquement vers le chaos. C'est-à-dire qu'il y a un départ et vers un chaos, puis il n'y a pas de retour. Là. C'est pas comme tout ce qui monte doit redescendre, la loi de Newton. Non, ça, à ce cas-ci, c'est vraiment que la loi était que la vie étant un point d'origine vers le chaos. Là, on pourrait revenir au point d'origine selon ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce que ça s'en va vers éventuellement un retour vers le passé? Ce que j'en comprends si j'analyse, la réponse est non pour notre passé à partir du moment où, selon moi, vous allez voir où je veux en venir. De toute façon, vous en penserez ce que vous voulez, mais voici ma façon de voir les choses. La réponse est non pour un passé avant qu'on fasse ça, je m'explique. Pour qu'ils fassent ça, donc pour réussir à faire ça, selon moi, ils partent d'un moment qui est enregistré dans le temps, duquel ils contrôlent au complet. C'est-à-dire que si on avait cette technologie-là à partir de Jésus, et qu'il y avait un certain enregistrement du temps ou une espèce de contrôle du temps, on pourrait revenir. Là, à partir de là je pense qu'il n'y a aucun enregistrement du temps ou aucun contrôle du temps qui a été fait avant ça. Comprenez-vous? Eux ont réussi à le faire dans un environnement où il y avait un départ et il y avait une fin et ils sont redevenus au départ. Si on ne monitore pas le départ à ce moment-là, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je ne pense pas. Moi, je crois que c'est une technologie qui va être possible si ça l'est éventuellement. Je ne suis vraiment pas certain. Là. Mais je dis si ça l'est éventuellement, ça va l'être à partir du moment où ça existe. Donc, on peut voir comme. C'est comme un peu comme quand vous mettez un backup sur votre ordinateur. Il faut mettre le point d'origine. C'est la meilleure description que je peux donner. Si vous n'avez jamais starté le backup ou starté le principe sur Windows ou ailleurs de dire je veux un backup sur mon ordinateur à toutes les heures, si vous ne l'avez jamais commencé, le moment où vous dites je vais aller rechercher ce que j'ai backé, si vous n'avez jamais commencé, vous n'avez rien. Il n'y a rien de backé. Par contre, à partir du moment où vous avez cliqué sur « je veux qu'un backup se fasse à toutes les heures », à partir de ce moment-là, vous pouvez revenir. L'Américain dit « bon, ben, je vais aller voir ce que tu sais, je vais revenir à l'origine ». Donc, je crois que c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'eux avaient un enregistrement. Je dis enregistrement, je ne sais pas comment ça marche. Mais ils avaient un monitoring du point de départ et ils avaient un monitoring de la fin et du retour. Donc, je pense que ça va être comme si on disait, bon, regarde, on a la technologie, à partir de maintenant, on enregistre le temps et on peut revenir. Je ne sais pas, ça serait hallucinant. Là. Ça serait complètement hallucinant de pouvoir faire ça. Mais juste ça, c'est déjà. Ben, je dis juste ça. C'est énorme. C'est une des découvertes les plus incroyables de l'histoire de l'humanité. Mais si on peut faire ça à partir du temps précis, tu sais, genre, les 100 prochaines années sont enregistrées puis tu peux revenir. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas. Puis il y a aussi les pensées. Tout ça, là, ça reste des atomes. Il n'y a pas de non tangible comme les pensées. Certaines personnes croient qu'il y a une âme. Donc, je ne sais pas comment les choses peuvent fonctionner. Mais anyway, tout ça pour dire qu'ils ont réussi à faire ça, OK? Et la description qu'ils nous en donnent, on va le prendre pour ce que c'est. On va les croire pour ce que c'est présentement. Et ils nous expliquent ça en disant que c'est comme une balle de billard que tu tapes dans le tas. Puis après ça, eux ont réussi à faire revenir le tas de la balle de billard, OK? C'est la meilleure façon qu'on peut le comprendre. Merci de la gang. Mais félicitations d'avoir réussi ça. Je ne sais pas où vous allez nous amener avec ça. Mais c'est assez fascinant pour l'instant.
If you're watching this, then I'm not around anymore. But don't spiral, don't obsess. Keep going.
So how are you?
A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself.
Bad then.
La meilleure façon que je peux dire, je peux parler de la prochaine nouvelle, c'est vraiment que Ricky Gervais hit again. Ricky Gervais sévit encore. Quel écrivain humoristique, Ricky Gervais. Quel écrivain humoristique. Pourquoi? Ricky Gervais a l'un des plus grands sitcoms, l'une des plus grandes comédies télévisées de la dernière année. La dernière décennie, selon moi, des dernières centaines d'années. Dans les meilleurs sitcoms humoristiques, bon, beaucoup de gens vont parler de trucs comme Seinfeld. T'sais, c'était drôle, Seinfeld, mais je ne l'ai pas super connu. Friends, je l'ai plus connu, mais ça a mal vieilli. T'sais, tu regardes Friends, ouais, c'est un peu de l'humour de secondaire 4. Il y a eu bien des affaires. Il y a eu beaucoup de séries. Après ça, bien avant moi, tu as eu Cheers. T'as eu plusieurs comme ça. Okay? Il y en a eu depuis les années 50 aux États-Unis, il y en a des tonnes. Mais une des meilleures séries qu'on a eues, du moins de ma génération à moi, que je ris encore autant que j'ai ri au début, c'est The Office. The Office avec, tu sais, la série The Office avec Dwight Schrute, avec Michael, tout ça. Quelle écriture superbe. C'est tellement drôle, The Office. Pour ceux qui ne le savent pas, The Office, ça vient du UK, donc du United Kingdom, ça vient d'Angleterre. Ça vient de Ricky Gervais. Il y a une édition britannique de The Office, c'est l'original, que moi je trouve moins drôle. C'est un peu triste quand ça arrive, ça. Hein? Quand l'inventeur, quand le gars qui a eu l'idée à la base, est moins bon que ceux qui le refont par la suite. Anyway, il y a eu trop de talent dans la version américaine. Tu sais, tellement d'acteurs de fou dans cette version-là. Mais c'est tellement drôle, The Office. C'est une des meilleures séries que j'ai écoutées, humoristiques, qui me fait rire. La numéro un, je vous le dis, je la répète encore, c'est Eastbound and Down. Ça finit là, c'est Kenny Powers. Mais je parle, The Office me fait rire. C'est le genre de série où je pourrais recommencer de la saison 1, puis ça me dérangerait pas. C'est drôle, The Office. Bon, ça vient de Ricky Gervais. Ricky Gervais, c'est un peu un pince sans rire. C'est l'humour noir, toujours, britannique. Très baveux, Ricky Gervais. Mais très attachant comme personne. Je m'excuse, mais très attachant. Ricky Gervais a animé, c'est-tu les Oscars ou les Grammys? Je ne sais pas ce qu'il a animé il y a une couple d'années. Très, très baveux, Ricky Gervais, mais très bon. Et la raison pour laquelle je pense que Ricky Gervais, on lui permet d'être baveux, c'est qu'il est très baveux envers lui-même. C'est pas quelqu'un de... Il est peut-être égocentrique dans le privé, mais je pense que son personnage, qui il est publiquement, il se rentre autant dedans lui-même qu'il peut rentrer dans les autres, là, Ricky Gervais. Donc, ça lui permet, je pense, de faire ça. Il n'est pas beau physiquement. Si je l'avais déjà vu, des petites dents pointues, on dirait un vampire. Très, un peu gras. Mais il y a tellement de charisme, Ricky Gervais, que ça passe. C'est quelqu'un. Puis je comprends le charisme avec quelqu'un comme ça. Je comprends les femmes. Souvent, vous avez cette qualité-là, les filles, qu'on n'a pas, nous, de passer par-dessus certaines choses pour le charisme. On n'est pas fort là-dessus, nous autres. On est très basic, les hommes. Tu sais, tu m'excites physiquement, ça y est, t'es ma femme. Vous êtes capables, vous, les femmes, des fois, de mettre de côté certaines caractéristiques moins plaisantes pour du charisme. Et je le comprends. En voyant un gars comme Ricky Gervais, je vois pourquoi vous faites ça. Je vois pourquoi vous avez cette attitude-là. C'est quelqu'un vraiment d'intéressant. Mais je dis là où Ricky... Ben, il a fait plusieurs choses, Ricky Gervais, en The Office, puis là, c'est pas mauvais. Des choses qui m'ont moins intéressé, des tentatives de séries, des films. Il y en a un qui est drôle, c'est un journaliste qui fait semblant qu'il y a une crise en Iran. C'est tout sur Netflix. Mais bon, ça m'a moins atteint que la dernière. Celle dont je veux vous parler, la dernière série que Ricky Gervais a fait, s'appelle Afterlife, Après la vie. En français, c'est sur Netflix, vous pouvez l'avoir en français. Vous avez entendu l'intro. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est un autre côté de Ricky Gervais qu'on se doutait parce que ça semble être un homme très, très sensible. Si on regarde son humour, si on regarde là où il s'en va avec ses blagues, On peut connaître quelqu'un, je pense, en voyant son humour. On peut comprendre quelqu'un et interpréter la personne en voyant comment elle rit et comment elle écrit l'humour. Donc, je pense que Ricky Gervais, du moins, on sentait une certaine humanité qui émanait de son écriture de Ricky Gervais. Mais là, c'est évident, dans cette série-là, dans le fond, le but, l'histoire de la série en question, le synopsis, si on veut, ou du moins le scénario, c'est que l'homme un journaliste, c'est un journal vraiment quétaine en Angleterre. Journal, puis c'est ce qui fait, c'est drôle aussi, vous allez voir plus tard, mais c'est un journal, un petit journal, journal de quartier. Sa conjointe a le cancer et décède. Donc, elle décède avant que le film commence, avant que la série commence. Donc, la série se déroule au moment où il a perdu sa conjointe. Là où c'est touchant, c'est qu'il était profondément amoureux de sa conjointe. Elle a fait un film sur, à la fin, un peu comme le film My Life, tu sais, avec le film là, où il parle à son fils, puis il montre comment. Ça, c'est pas la même chose. Elle parle à son mari en lui disant, en l'encourageant dans le day-to-day, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, donc elle a le cancer, elle a un certain temps pour le faire. Elle l'encourage dans le day-to-day en disant, t'es quelqu'un de bien, je veux que tu sortes aujourd'hui, je veux que tu t'occupes de notre chien. Elle sait qu'il va le prendre difficile, le connaît. Donc, elle lui donne des conseils de journalier pour qu'il pense à autre chose et aussi pour qu'il vive dans le day-to-day. Mais ça, écoute, l'humour est là, noir, parce qu'il veut pas. Il veut crever tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il veut se suicider. Il est malheureux. Il a perdu sa conjointe. C'est drôle. C'est drôle. C'est vraiment drôle parce qu'il est baveux, Ricky Gervais. Et oh, il n'y a personne qui passe pas au bat. Il y a un petit gars qui dit qu'il va le tuer avec un marteau parce que c'est un petit sacrement de petit abaisse roux qui fait chier son neveu. Il est très baveux, Ricky Gervais. Donc, c'est drôle. Vous pouvez vous attendre à n'importe quoi là-dedans. Là. Il est baveux, il va loin. Mais la série est vraiment touchante. Il réussit à devenir touchant là-dedans, Ricky Gervais. Il réussit à devenir humain, encore une fois. Il réussit. Puis ce sujet-là est différent. Et un autre point qui, moi, me surprend et qu'on ne voit pas ça, je ne sais pas si c'est au UK, en Angleterre, c'est quelque chose de plus commun. Ici, ça ne l'est pas. Les femmes que Ricky Gervais cruise dans cette série-là sont de son âge. C'est hot. C'est con à dire, hein, mais c'est impressionnant. Ricky Gervais, écoute, c'est quelqu'un d'hyper populaire. Il pourrait, là, encore une fois, comme bien les Américains font, avoir des jeunes infirmières. Puis sa femme est morte. Fait que là, il a exploré l'idée d'avoir une jeune blonde. Jamais. Il tombe pas dans ce cliché-là, pas deux secondes. La fille sur qui il trippe là-dedans, c'est une infirmière qui s'occupe de son père. Écoute, elle a l'air plus vieille que lui, là. Donc, c'est vraiment... C'est le fun. C'est le fun pour ça. C'est rafraîchissant de voir un homme de cet âge-là s'intéresser à des femmes de son âge, même s'il a le choix. C'est bien. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un point... C'est vraiment un autre point pour Ricky Gervais, parce que c'est lui qui l'écrit, c'est lui qui le produit. Donc, c'est ses idées à lui. Il n'est pas allé chercher une jeune actrice pour avoir l'air d'être cool. Non, il a pris des acteurs de son âge, des femmes de son âge, qui ne sont pas nécessairement des pétards, mais des femmes intéressantes. Même sa conjointe. Celle qui fait sa conjointe n'était pas particulièrement jolie, mais il y avait une connexion, elle était intelligente. Il y avait vraiment une connexion psychologique entre ces deux-là. Et c'est marquant. La série est bonne. Moi, ça vient me toucher encore plus parce que ça, c'est vraiment venu m'expliquer certaines choses chez moi. C'est con à dire, hein, c'est à ce point-là. Parce que j'ai vécu un divorce il y a 2 ans et je l'ai pris comme un décès, moi. Je l'ai pris comme si la personne avec qui j'étais était morte. J'ai plus accès à cette personne-là, elle n'existe plus. Elle vit autrement. Pour moi, ça a été très difficile. Pour moi, ça a été très, très, très difficile de perdre quelqu'un comme ça. Et de voir Ricky Gervais agir, c'est thérapeutique. Je le vois vivre ce que je vis, ce que j'ai vécu, parce qu'aujourd'hui, c'est de mieux en mieux, je me sens bien. Mais je vois vivre ce que j'ai vécu, je le vois se poser des questions par rapport à ce que j'ai vécu. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir ça. Ça me fait du bien de voir quelqu'un avoir mal à ce point-là. Et surtout qu'il n'en revient pas. C'est ce que moi, je vivais. Puis je me disais, pourquoi? Tout le monde dit, reviens-en. Reviens-en, coudon, ça fait 2 ans. Reviens-en. Sérieux, passe à autre chose. Et je dis, n'importe qui sur Terre veut passer à autre chose. Je m'excuse. Là. Quelqu'un qui avait souffert, vous le savez. Il n'y a personne qui se dit, man, je veux rester là-dedans à vie. Tu sais, tu décides pas nécessairement. Oui, tu peux faire toutes les techniques que les gens disent, mais reste que... T'as des gènes, t'as une DNA, t'as une chimie au cerveau. Puis on est pas mal toutes victimes de notre chimie au cerveau. Les gens vont dire, non, contrôle-toi par... Écoutez, on reviendra là-dessus, je ferai un épisode sur le cerveau. Là. Je veux dire que vous avez des prédispositions. Ceux qui peuvent avoir ce discours-là, botte-toi le cul puis repars, vous avez une prédisposition chimique pour être capable de passer à autre chose. OK? Vous avez une prédisposition pour être capable d'oublier les affaires puis d'être... C'est comme ça. Fait que pour vous, c'est évident de dire, voyons, botte-toi le cul, regarde, je le fais. T'es fait comme ça. Il faut respecter. Il y a des gens qui ça marche pas comme ça. On est pris de la chimie de notre cerveau. On est pris de la façon que notre cerveau réagit. Et si ton cerveau n'en revient pas, t'as beau te battre contre ça, c'est très difficile. Oui, il y a quelque chose à faire. Tu peux pas non plus t'asseoir là-dessus. Tu dois combattre. Mais tout le monde n'est pas pareil. Et dans mon cas, moi, mon cerveau n'en revenait pas du tout. Donc, c'est la même chose avec Ricky Gervais. Tout le monde le regarde en disant « reviens-en ». Et lui, il dit « écoute, je suis pas capable, ça me fait mal ». Donc, j'ai aimé ça pour ça. Mais ça, c'est personnel. Ça se peut que vous n'aimiez pas la série pour cet aspect-là. Ça se peut que vous n'ayez pas du tout vécu ce genre d'affaire-là puis que ça ne vient pas vous chercher pour 2 secondes. Mais moi, dans mon cas, c'est venu me chercher pour ça aussi. Mais juste pour l'humour de la patente. Juste pour le fait que c'est drôle, parce que c'est drôle. Pour le fait que c'est bien écrit. Ricky Gervais est vraiment revenu. Je pense que c'est son deuxième. C'est pas aussi fort que The Office, là. Mais souvent, c'est son deuxième après The Office pour moi. Le deuxième plus grand écriture de Ricky Gervais après The Office, c'est Afterlife. C'est une nouvelle minuscule. C'est même pas une grosse news. Il en faut des légères, des pas rapports. C'est mignon. Ils disent qu'il y a des poulets qui se sont mis en gang pour tuer un renard. Let's go, la gang! C'est bon, les poulets. Bravo! Ils sont vraiment... Donc, il y a une place, il y a peut-être une centaine ou 200 poulets. Il y a des portes automatiques qui ferment dans leur espèce de petite maison de poulets. Là. Ils sont tout contents, la nuit, ils vont faire leurs œufs. Puis, il y a un petit renard, un petit tabarouette qui a réussi à rentrer avec la porte ferme. Lui, s'est dit, m'aller bouffer du poulet ce soir, m'aller manger ça. Et ils l'ont trouvé le matin. Il est mort. Il y a avec des millions de coups de bec dans la gueule. Tout le monde dit, hey, c'est pas drôle, c'est maintenant, t'as pas besoin de drôle, là. Je veux dire, les chickens, félicitations, là. Moi, je veux dire félicitations aux chickens, en gros. C'est ça que je veux dire. Félicitations, les chickens, tu parles d'un affaire. Tu parles d'une patente cool, les chickens se sont dit « Ah non, pas aujourd'hui. No way, asshole. Non, non, tu viens pas nous péter la gueule. On avait une soirée intéressante. On allait jaser de nos œufs et de nos vies. » Ils te l'ont chickené. Ils te l'ont battu à coup de bec, le fox. Il est mort. Mais comme je vous dis, prenez ça comme vous voulez. Là. Comme ça, vous voulez, je m'en fous. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Tu sais, félicitations au poulet. C'est des fois, ça donne, je trouve pas, ça vous motive pas, vous autres. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, tu sais, l'underdog tout le temps. C'est ça qu'on aime dans la vie, pourtant, les underdogs. Faites pas semblant, là. On aime ça quand quelqu'un qui est pas supposé gagner gagne. Comme dans Rocky IV, s'entraîne sur du bœuf, du porc, puis là, il arrive sur le ring en Russie, là, tu sais, puis il est underdog, puis le Russe fait 6 pieds 1000, sa blonde fait 6 pieds 9, tu sais, tout le monde est là, puis tout le monde prend pour Ivan Drago. Puis là, finalement, durant le combat, La vécu à moi et je crois en vous. Tu sais, on aime ça. Ben là, l'underdog, le Rocky de la gang, là, dans ce cas-ci, dans cette situation-là, il y en a un Rocky, c'est les poulets. C'est les poulets. Ils ont fucking donné une volée au renard, tu sais. Non, mais je les vois, là, en train de se regarder, là, quand le renard est rentré, lui, là. Tu sais, un renard, ça fait ça. On s'entend, la gang, un renard, ça fait. Je vous mangerai. Puis là, tu vois les poules qui le regardent. Non. Toute la gang sont là. Poules! Les poules à l'attaque! Bravo les poules. Bravo les poules d'avoir batté des culs. I'm proud. Non, mais là, j'ai remis ça, mais c'est pas ça. À l'origine, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est pas ça que je voulais mettre. Je vais remettre ce que je voulais mettre. Je le trouve. Ah, il est ici, voilà.
chief financial officer. So did you sign off personally on this arrest? What are you telling the Chinese government, which is strongly reacting?
I can assure everyone that we are a country of an independent judiciary, and the appropriate authorities took the decision.
Hey, Menelry. J'ai la misère avec notre premier ministre. Ça, c'est une grosse affaire. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur de la chose parce que c'est profond. Mais le président de Huawei, le CEO, le Chief Executive Officer, le plus grand boss de Huawei. Huawei, en passant, qui est un géant coréen. Okay? C'est pas parce que nous, récemment, on a entendu parler de Huawei avec les nouveaux téléphones, le Mate 20 Pro, puis de bons téléphones, des téléphones superbes de Huawei. Mais c'est gros, là. Huawei, ils font la pluie puis le beau temps à travers le monde depuis longtemps. C'est énorme, Huawei. Et c'est une famille, donc, qui contrôle ça. Et toute la marde a commencé quand le gouvernement américain a demandé aux Canadiens, donc on entendait le Trudeau, donc les Américains ont dit au gouvernement canadien, « Voulez-vous arrêter, s'il vous plaît, la CFO? » La CFO, c'est Chief Financial Officer. Donc, c'est la responsable, c'est la comptable en chef, on va dire de même, là. C'est la comptable en chef, mais c'est la fille du propriétaire de Huawei. Donc, c'est une multimilliardaire. Elle est au Canada à ce moment-là, à Vancouver. Et le gouvernement américain dit « Arrêtez-la pour nous, s'il vous plaît, pour la raison suivante. » C'est-à-dire qu'il y a eu... Les Américains ont remis des sanctions sur l'Iran. Donc, vous vous rappelez, il y avait des sanctions qui avaient été levées lorsque Obama avait signé un deal. Les Iraniens arrêtaient de faire l'arme nucléaire. On leur redonnait certains avantages. Donc, on pouvait faire du commerce avec les Iraniens. Un genre d'embargo qui était levé. L'embargo est retombé sous Trump. Il a décidé de remettre certaines lois. Et selon les Américains, Huawei a continué à faire affaire avec l'Iran. Donc, on veut arrêter Huawei United States. Donc, elle étant la représentante de Huawei, étant le Chief Financial Officer, on veut l'arrêter. Pour tout le fait du trade avec l'Iran, tu es sous arrestation pour avoir brisé le trade agreement, pour avoir brisé l'embargo, étant une compagnie qui fait affaire avec nous aussi. Donc, elle est arrêtée par le gouvernement canadien. Juste ça, c'est assez controversé à travers le monde. Les Coréens, le président de Huawei dit que c'est dégueulasse. Beaucoup de pays disent aux Canadiens, pourquoi vous avez écouté les Américains l'arrêter? Pourquoi vous avez fait l'arrestation comme ça? Ça, je peux comprendre, c'est un voisin. Si on commence à ne pas s'écouter comme ça, vous avez ne pas aimer Trump ou aimer Trump. S'il y a un voisin qui te dit, écoute, aide-moi s'il te plaît, on doit arrêter telle personne, tu ne peux pas commencer à les faire chier. Ben, du moins, ça me tombe pas. Okay? Il y a une collaboration voisin à faire. Oubliez Trump encore une fois là-dedans, il y a une collaboration normale. Mais on ne l'a pas encore extradé. Ça, c'est bien, par contre. De dire, écoutez, montrez-nous avant la raison pour laquelle on vous l'enverrait. On va la garder ici. On va la garder. Elle ne peut pas partir. Là. Mais expliquez-nous le fuck. Là. Expliquez-nous pourquoi il faudrait qu'on vous la... Parce qu'ils savent, maintenant, les Canadiens savent que c'est très sévère aux États-Unis. Si on l'envoie là, il peut avoir des conséquences majeures. Donc, elle n'est pas encore là. Mais la nouvelle est intéressante. Ça, c'est la nouvelle de base. C'est ce qui s'est passé. C'est la grosse game avec Huawei. Puis les Américains présentement. Mais là où c'est intéressant, le CEO, donc le président de Huawei, c'est la misère à dire Huawei. Donc le président dit que les techniques américaines, présentement, à travers le monde, sont en train de faire peur aux investisseurs. Et ça, c'est big. C'est directement lié à Donald Trump, et je vous l'ai dit, sur sa façon de faire les choses, et non sur la légitimité des choses. Si on revient à la base... Le trade, il y avait un problème de déficit de trade avec les Chinois. J'en ai parlé la semaine passée. Pour remettre la table avec Huawei, je vais en reparler. C'est-à-dire que les Chinois vendaient du stock à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, sont plus gros clients et les Américains. Donc, les Chinois vendent, mais n'achètent rien. Comprenez-vous, c'est comme si vous faites affaire avec votre voisin, vous n'arrêtez pas de lui vendre des petits plats cuisinés que vous faites. T'sais, vous vendez des petits plats cuisinés, vous n'arrêtez pas de lui en vendre. Et lui... vend du sirop d'érable, vous n'en achetez jamais. Comprenez, à la longue, vous allez, il va dire, j'arrête pas de t'acheter tes petits plats. Peux-tu m'encourager, s'il te plaît, avec mon sirop d'érable? Ah, mais moi, j'en fais chez nous, ça m'intéresse pas, merci. À la longue, tu vas comme dire, écoute, là, c'est chien, là, j'arrête pas de t'acheter tes petits plats, tu préfères un effort. Bon, c'est la même chose pour la Chine et les États-Unis. La Chine vend, mais n'achète rien. Elle est un peu baveuse. C'est-à-dire qu'elle produit pour elle-même, elle vend du... Donc, il y a un trade déficit énorme. C'est-à-dire qu'elle... exporte plus qu'elle importe, c'est bon pour la Chine. C'est mauvais pour les autres pays. Les États-Unis, il y a du cash qui sort, mais il n'y en a pas qui rentre de la Chine. Comprenez-vous? Il y a un trade déficit. Il y avait quelque chose à faire, là. Il y avait une négociation à avoir depuis des années, et bien des présidents avaient la chienne de faire cette négociation-là. Trump n'a pas eu la chienne de le faire, a attaqué le front. Mais encore une fois, le fait de façon psychopathe, étant un psychopathe, et c'est le commentaire du président de Huawei, en disant sa façon de faire, là, le scare tactics, c'est comme ça, en voulant dire, regarde, nous, on va tout bloquer, on va te mettre dans la merde, on va te ruiner. Tu sais, la technique un peu du bullying. Le président de Huawei, c'est sûr, part du principe que sa fille ou sa nièce, ou peu importe, je sais pas si lui est le père, mais je sais que la fille de Huawei, dans le fond, une qui est dans la famille de Huawei, est potentiellement emprisonnée aux États-Unis. C'est sûr que ça met de l'huile sur le feu pour que lui agisse et parle. Mais ce qu'il dit est réel, en disant, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, là, et là, on parle d'un président d'une énorme multinationale, il sait de quoi il parle. Il dit, votre façon de faire de la business, les US, là, vous nous faites chier. Et vous commencez à faire peur à bien des investisseurs. Il y a bien du monde qui ne veulent plus faire affaire avec les Américains et qui n'enverront plus de business aux États-Unis ou ne feront plus de siège social dans votre coin ou du moins ne feront plus de branches aux États-Unis. Votre tactique est en train de faire peur à du monde comme moi. Et si le président de Huawei dit ça, oui, il y a des raisons de le dire. Je vous le dis, on revient à la base. Il y a quelqu'un de la famille d'emprisonné, du moins à date au Canada. Je dis emprisonné, si on regarde les conditions, elle est dans une maison de luxe et elle va magasiner tous les jours. T'sais, on s'entend, là, elle n'est pas dans une prison avec une petite toilette de métal. Okay? Mais oui, anyway, elle est quand même prisonnière. Elle ne peut pas partir du Canada. Disons ça comme ça, ils ont pris son passeport. Et donc, elle est potentiellement envoyée aux États-Unis. Il y a une raison, lui, de pogner l'air. Mais le message derrière ça ne doit pas être mis de côté parce qu'il y a une raison de pogner le message. C'est un président d'une énorme compagnie qui sait exactement de quoi il parle et surtout qu'il y a des contacts à l'interne. Quelqu'un qui a énormément de contacts. Là. Il parle à Sony, il peut parler à Samsung, il peut parler à LG régulièrement, il peut parler à Xiaomi en Chine, il peut parler à Alibaba, il parle à ben du monde. Tu sais, c'est des chums dans ce milieu-là, surtout en Asie. Ils doivent pas mal tous se connaître. Et lui dit... Ce que vous faites, ça va pas, là. Ça met du monde en sacrament et ça fait que les investisseurs vont foutre le camp ou du moins ils ne veulent même pas aller, même pas considérer les États-Unis. Et c'est normal. Tu peux pas agir comme ça à travers le monde, même si c'est légitime. Ça revient au principe. On donne un exemple. Il y a quelqu'un qui vous a donné, qui a fait quelque chose de mal. Il vous a, je sais pas moi, il a volé ton courrier. Tu sais que lui a volé ton courrier puis que c'est pas correct. Il y a plusieurs façons d'agir. Tu peux arriver avec un bat de baseball puis défoncer la tronche. C'est physiquement, tu peux le faire. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner comme message? Qu'est-ce que les gens autour vont dire de toi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir prendre le thé chez toi la semaine d'après? Est-ce que les gens vont dire, on va aller prendre le thé chez le dude qui a vargé un coup de bat de base, le gars qui a volé une lettre? Non, il n'y a plus personne qui va venir prendre le thé chez toi. Ok, c'est terminé. Là. Oublie ça. Tu vas être tout seul, tu vas être isolé. Pourtant, tu avais raison d'agir. Deuxième façon, tu serais allé le voir, tu leur aurais dit, écoute, tu me redonnes mon courrier, je ne veux plus jamais que ça arrive ou sinon j'appelle les polices. Assure-toi que ça arrive plus, je te le dis, là, je suis conscient de ça, j'ai avisé tout le monde de ce que tu fais. Arrête, s'il te plaît. Tu vas avoir du monde qui vont dire, wow, félicitations, ça a arrêté, tu as bien réglé le dossier, on va aller prendre le thé chez toi, t'as-tu, peu importe, tu vas dire salut, ils vont te saluer dans ton quartier. Comprenez-vous, c'est deux fois la même situation, c'est deux fois la même légitimité d'agir. Mais votre réaction a fait une fucking différence. Là. Votre réaction a créé d'un côté l'anarchie puis de l'autre côté l'amour. Ce qui fait que Donald Trump, c'est le gars, lui, qui arrive avec son bat de baseball. C'est son gars qui arrive avec le bat de baseball quand quelqu'un lui a volé son courrier puis qui a donné un coup de, il a donné une volée à coup de bat de base à quelqu'un. Là. Fait que là, les présidents de Huawei, des gens comme ça, c'est ce qu'ils répondent. C'est les voisins qui disent « OK, si ça te dérange pas, on n'ira pas prendre le thé chez toi la semaine prochaine. What the fuck, you crazy shit? » Tu sais, je veux dire, sont comme, voyons donc. Ça n'a aucun sens. Il faut commencer à écouter ce genre de choses-là. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est majeur. Ça reste pour les États-Unis, vous allez me dire, mais beaucoup de monde ne font pas de différence à travers le monde au niveau business entre nous et les Américains. Faites attention. On est assez liés aux Américains, donc ça nous concerne ce qui se passe là-dessus. OK? OK, thanks. Je vous aime gros je vous aime gros comme j'aime les chickens qui ont donné une fucking volée à notre ami le renard. Je vous aime gros de même.